Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Notre émission de ce jour va être consacrée au rapport ô combien délicat entre le corps et l'âme, l'esprit et la matière. Nous allons effectuer cette exploration en prenant appui sur la pensée médiévale pour examiner s'il est bien exact que durant cette période prévalait un vif dualisme ayant instauré une sorte de rupture entre l'âme et le corps, peut-être même de guerre entre l'âme et le corps. Nous ne faisons pas ce voyage et cette exploration par hasard, mais parce que nous avons la chance de recevoir dans notre studio Jérôme Bachet. Jérôme Bachet est historien, il est enseignant-chercheur à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris et aussi à l'université autonome du Chiapas au Mexique, ce qui est beaucoup moins banal, et va peut-être expliquer la façon dont il a abordé cette question dans un récent ouvrage dont le titre est « Corps et âme, une histoire de la personne au Moyen-Âge », mais pas seulement au Moyen-Âge, car ce qui nous a particulièrement intéressé dans cet ouvrage, c'est que c'est aussi un ouvrage comparatiste. Il s'agit de comparer cette conception de la personne au Moyen-Âge à celle qui prévaut aujourd'hui et à celle qui prévaut dans d'autres civilisations amérindiennes, mélanésiennes, africaines ou autres, finalement, l'ensemble des autres civilisations. Évidemment, ce regard comparatiste crée un effet de perspective et de contraste extrêmement saisissant, ce qui explique certainement que cet ouvrage vous a valu tout récemment le prix Gobert décerné par l'Académie des Inscriptions aux Belles-Lettres, ce qui explique d'ailleurs aussi votre présence parmi nous aujourd'hui. Merci à l'Académie des Inscriptions aux Belles-Lettres de nous avoir permis de vous découvrir, d'avoir lu votre livre, de vous inviter et de vous donner la parole. Mais commençons par le début, ce point d'appui qui va nous permettre de réfléchir. Cette civilisation médiévale était-elle bien dualiste ou non ?
Eh bien, la réponse est non. c'est l'idée qu'on en a a priori, effectivement. L'idée donc du dualisme, c'est-à-dire une séparation de l'âme et du corps, une guerre entre l'un et l'autre, et par exemple la métaphore classique du corps comme vêtement, voire comme prison de l'âme, donc quelque chose qui serait par principe négatif et dont l'âme chercherait à s'échapper. Or, ces conceptions-là ont existé dans l'Antiquité, elles étaient à l'arrière-plan des conceptions médiévales, mais la théologie médiévale occidentale s'est plutôt construite, à mon avis, contre cette idée. C'est-à-dire même aussi contre saint Paul, pourtant, évidemment, un des auteurs fondateurs de la pensée chrétienne. Alors, l'idée que j'essaie de développer est que les conceptions médiévales sont duelles, mais non dualistes. Alors, ça peut paraître un peu subtil, mais c'est le point d'ancrage, et pour moi, c'est le point de départ de toute la réflexion que j'essaie de développer dans ce livre. Donc, pourquoi duel ? Eh bien, parce que l'être humain est fait de deux entités, d'un côté un corps, de l'autre une âme. Ces deux entités sont fondamentalement différentes. Le corps est périssable et mortel, et l'âme, quant à elle, est incorporelle et immortelle. Donc ce sont deux entités extrêmement différentes, voire opposées par leurs caractéristiques, et elles sont deux. Cette idée-là, donc d'une dualité anthropologique, n'avait pourtant rien d'évident au départ, puisque précisément dans le Nouveau Testament, en particulier dans les écrits justement de saint Paul, il y a plutôt une anthropologie ternaire par laquelle on explique que la personne humaine est faite d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Donc là, on a une anthropologie constituée de trois éléments. Les théologiens médiévaux ont plus progressivement écarté cette idée. Alors pourquoi trois éléments ? Parce que l'âme, c'est la partie non corporelle, mais qui anime le corps, c'est le principe animateur du corps, et l'esprit, c'est le principe rationnel, on va dire. La théologie médiévale a opté pour une conception duelle, deux éléments et non pas trois, par exemple. Mais pour autant, est-on dans un système dualiste ? Eh bien non, parce que la question du dualisme, c'est la question non pas du nombre d'entités, c'est la question de la relation entre ces entités. Est-ce que cette relation est pensée comme négative ? comme quelque chose qu'il faut défaire? Cherche-t-on à penser à un état de l'esprit pur, séparé de la matière? Si c'est le cas, alors on est dans une pensée dualiste. Mais précisément, la théologie médiévale, les théologiens médiévaux, à partir d'Augustin et de plus en plus, au fil du Moyen-Âge jusqu'à saint Thomas d'Aquin notamment, ont au contraire essayé de penser une unité positive de l'âme et du corps.
Complémentaire.
Une complémentarité nécessaire. Nécessaire à tel point que ils en viennent à dire que l'âme ne peut pas accomplir ses propres fonctions, ses propres capacités, si elle est séparée du corps. Donc, elle a besoin du corps pour se réaliser elle-même en tant qu'âme. Et on en vient, par exemple, chez des théologiens au XIIe siècle, comme Hugues de Saint-Victor, par exemple, à une pensée si positive de l'union de l'âme et du corps qu'on va la définir, que ces théologiens vont la définir comme une amitié. Une amitié, c'est un terme très fort au Moyen-Âge, voire comme une musique, qui est aussi un terme extrêmement fort, parce qu'il signifie en réalité l'harmonie, l'harmonie de la création voulue par Dieu. Et donc, pour eux, ce que l'on trouve entre l'âme et le corps, c'est une véritable musique. Donc, l'âme et le corps désirent leur union. Et au lieu de désirer leur séparation, comme ce serait le cas dans une pensée dualiste, c'est donc pourquoi on peut parler de conceptions qui, à la fois, renforcent l'idée d'une dualité. On a âme et corps, ce sont les deux composantes de la personne humaine, mais en même temps qui insiste et qui renforce, qui développe de plus en plus une idée que je qualifie même de anti-dualiste, parce qu'elle va à rebours de certaines composantes qui tendraient plutôt en direction inverse, par exemple le legs de saint Paul, ou une conception effectivement du mépris du corps, du mépris du monde, de la fuite du monde, qui est très importante évidemment dans les conceptions des moines, en particulier durant le Haut Moyen-Âge.
Oui, car ce que vous expliquez, c'est qu'il y a une dynamique anti-dualiste.
Exactement.
Mais que, bien entendu, ça coexiste.
Il y a une pesanteur dualiste d'un certain côté.
Et de nombreux débats.
Mais en même temps, une dynamique anti-dualiste qui est ce qui anime, ce qui vivifie, en particulier la création et l'inventivité de la théologie médiévale, notamment jusqu'au XIIIe siècle. Et saint Thomas est un peu le point d'aboutissement de cette dynamique anti-dualiste.
Oui, l'hélimorphisme, c'est ça?
Voilà, alors il pense l'hélimorphisme, donc ça, il reprend les conceptions d'Aristote, hein, donc toute réalité est faite par la conjonction d'une forme et d'une matière, hein, d'une forme qui donne son principe d'existence à une matière qui sans elle serait inerte, et saint Thomas d'Aquin applique cette notion de l'hylémorphisme, donc cette façon de penser l'articulation d'une forme et de la matière, pour l'appliquer à la personne humaine, c'est-à-dire au rapport âme-corps. Donc, il expose que l'âme est la forme et la forme substantielle du corps, donc le principe qui donne son identité, sa nature véritable au corps. Donc en réalité, il ne s'agit plus vraiment de deux entités séparées. On ne peut pas penser la séparation entre la forme et la matière.
Deux éléments d'un même tout.
Voilà, ça constitue un tout indissociable. Et par exemple, saint Thomas en vient à dire que l'état de l'âme séparée, alors elle est séparée effectivement au moment de la mort. Au moment de la mort, l'âme se détache du corps et elle continue sa vie dans l'au-delà jusqu'au moment du jugement dernier et de la résurrection des corps, puisque c'est ça effectivement l'horizon que la pensée chrétienne fixe à l'humanité, non pas une séparation de l'âme et du corps, mais les retrouvailles de l'âme et du corps à la fin des temps, et des retrouvailles qui vont durer pour l'éternité.
C'est peut-être d'ailleurs le meilleur exemple du refus du dualisme, c'est cette idée de résurrection.
Alors, cette idée de la résurrection, elle est déjà dans le Nouveau Testament, mais elle a pu être pensée de manière assez différente au fil des siècles, et on voit bien que d'abord Augustin, puis les théologiens médiévaux, ont pris à bras-le-corps, ce qui n'était pas tout à fait le cas auparavant, cette idée de la résurrection des corps, qui faisait partie des croyances fondamentales dans la société chrétienne médiévale. On la voit au tympan de toutes nos cathédrales, avec le jugement dernier et les morts qui ressuscitent de leur tombeau. Mais il y avait là un problème, une difficulté particulière. Car en quoi consistent ces corps qui ressuscitent? qui ne vont pas ressusciter dans leur statut de corps terrestre périssable, soumis aux mutations qu'impose le cours du temps. Ce seront, à ce moment-là, des corps glorieux, éternels, qui vont échapper donc à la mortalité, qui vont conserver leur parfaite splendeur de manière éternelle, qui vont être dotés d'un certain nombre de qualités tout à fait extraordinaires pour des corps, qui sont en réalité des qualités qui sont celles des âmes. Une très grande agilité, la capacité de se mouvoir comme elles l'entendent, une beauté absolue, un rayonnement comme une sorte de soleil, et évidemment surtout l'impassibilité, c'est-à-dire le fait de résister à l'effet du temps. Autrement dit, ces corps glorieux sont des corps spirituels, sont des corps qui sont devenus comme des esprits. Et donc là, on a une sorte de paradoxe. Comment penser cette... c'est un peu difficile, et surtout expliquer comme ça en quelques minutes. Mais justement, c'est vraiment une question théologique extrêmement importante de penser le statut de ces corps glorieux qui sont des paradoxes, parce qu'ils sont des corps spirituels.
Oui, mais il reste, vous insistez sur ce point, il reste des corps.
Il reste des corps, et pourtant, ils ont désormais les mêmes qualités que les âmes, ou que les êtres spirituels de manière plus générale.
Alors ça, c'est l'un des exemples que vous donnez pour illustrer ce refus d'un dualisme radical et même d'un dualisme tout court. Mais il y en a une multitude d'autres. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns pour, j'allais dire, défendre votre thèse, mais aussi l'incarner un petit peu, justement?
Oui, alors une autre incarnation évidente, c'est la représentation même de l'âme. Là aussi, on a un paradoxe, puisqu'on a énormément de représentations iconographiques de l'âme, et il y a plusieurs chapitres du livre qui sont consacrés à cette iconographie de l'âme. Eh bien là, le paradoxe est un peu du même ordre. Comment représente-t-on les âmes lorsqu'elles sont séparées des corps? Eh bien, on les représente par ce qui est néanmoins leur contraire, c'est-à-dire on les représente sous la forme de corps. Il y avait pourtant d'autres solutions. Il existe des représentations de l'âme, y compris dans l'art chrétien, sous forme d'oiseaux. Alors là, on échappe à ce paradoxe qui montre l'âme sous la forme d'un corps, ou sous la forme de figures ailées, qui montrent clairement qu'il ne s'agit pas de corps au sens habituel du terme, ou avec d'autres inventions des artistes qui ont parfois créé de manière extrêmement ingénieuse des manières de représenter l'âme qui les désincarnait en quelque sorte, qui leur ôtait ce caractère apparemment très, très corporel. Or, ce qu'on constate dans l'évolution de l'iconographie médiévale, c'est qu'au lieu de chercher à atténuer cette représentation corporelle des âmes, eh bien, les artistes, les peintres, les sculpteurs médiévaux ont au contraire accentué ce caractère pleinement corporel des âmes, au point qu'ils ont parfois donné à la représentation de l'âme, ils en ont fait parfois une sorte de portrait, avec une stricte équivalence entre les traits de l'âme qu'on prête à l'âme et les traits de la personne vivante, et ils ont aussi insister sur la dimension très incarnée, sur la substance rebondie, bien en chair, des âmes qui sont représentées. Un exemple qui m'est cher, parce qu'il paraît un peu paradoxal, c'est une représentation dans une fresque italienne du début du XVe siècle, qui montre saint Thomas, alors là encore une fois, le grand théologien, l'un des plus grands docteurs de l'Église catholique, dont on représente l'âme, non pas sous la figure sous les traits d'une figurine éthérée et désincarnée, mais au contraire une âme bien en chair, dont on nous montre d'ailleurs, paradoxe supplémentaire, les fesses, puisqu'il est vu de dos, nu, et on a deux saints, qui ne sont pas des moindres, Pierre et Paul, qui doivent le pousser en quelque sorte pour le faire monter jusqu'à l'accolade du Christ qu'il accueille au ciel. Donc cette incarnation de l'image de l'âme me semble être une expression de cette dynamique antidualiste dont on parlait tout à l'heure.
Oui, vous, dans le même ordre d'idée, c'est votre représentant Saint Thomas qui m'y fait penser, mais vous présentez également une iconographie riche, parce qu'il y a un cahier iconographique qui est tout à fait nécessaire, plus difficile à montrer à la radio,
mais
vous pouvez peut-être décrire cette œuvre dans laquelle l'âme entraîne le corps matériel vers les cieux, ce corps matériel s'agrippant en quelque sorte à cette représentation également corporelle.
Voilà, alors ça c'est une sorte de transcription iconographique de tout ce dont on est en train de parler dans une œuvre du XIIe siècle, une sorte de schéma de cette conception anthropologique.
Une vocation pédagogique presque.
Très très pédagogique. D'ailleurs, c'est dans un ouvrage qui est une forme de dialogue entre un maître et son disciple, et le disciple a un peu de mal à comprendre toutes ces questions du rapport entre l'âme et du corps dont on parle, et donc il réalise plusieurs figures pour accompagner ce discours en effet pédagogique. Et ce qu'on voit, c'est justement l'âme qui prend le corps pour lui permettre de s'élever avec elle. Par ailleurs, dans cette image, le corps lui-même est qualifié de bon. Alors l'âme est meilleure, parce que évidemment dans ce modèle, il y a quand même une hiérarchie entre l'âme et le corps. L'âme est supérieure au corps, c'est elle qui doit le guider, mais elle ne cherche pas à abandonner son corps. Elle cherche au contraire à le tirer avec elle pour que ensemble ils s'élèvent vers Dieu. Donc la quête du salut, c'est pas la quête d'un salut, du salut d'une âme. D'un spirituel pur, d'une âme séparée de son corps, c'est la quête d'un salut de l'âme et du corps réunis.
C'est là que vous allez à l'encontre de nombreux préjugés qu'on peut avoir sur cette période, car dans l'imaginaire collectif que nous avons aujourd'hui de cette période, on aura plutôt l'impression, l'image, notamment de moine, mais là c'est peut-être vrai, se flagellant, voulant s'extraire de la pesanteur du corps, source du péché, parce que après tout, cette imbrication du corps et de l'âme, on aurait pu aussi la voir comme un combat entre ce qui s'élève et ce qui peut mener à la chute. Est-ce que ça n'existe pas aussi? Et comment répondez-vous à cette objection latente?
Ce n'est pas une objection, ça fait partie de ce que je décris, puisqu'il faut effectivement prendre en compte cette dimension que j'appelle la pesanteur dualiste, qui est évidemment particulièrement forte dans les milieux monastiques, puisque les milieux monastiques sont fondés sur le fait qu'ils cherchent à fuir le monde, à se retirer du monde, parce que le monde est justement le lieu du péché, le lieu des choses matérielles, corporelles, et que le salut consisterait à chercher une voie, la voie d'un spirituel pur qui est à rechercher en se détachant du monde et des choses corporelles. Donc ça, c'est une dimension qui existe, effectivement, dans le christianisme médiéval.
Mais toutefois, comme vous l'avez dit, le corps est qualifié de bonhomme.
Voilà, absolument.
Dans quelle mesure?
Absolument. Alors, par exemple, même dans les réflexions sur d'où vient le péché. Alors, effectivement, notre idée commune, aujourd'hui, quand on pense à ce qu'a pu être, à ce qu'ont pu être les conceptions chrétiennes, on se dit la cause du mal, du péché, c'est le corps. L'âme, au contraire, elle est vertueuse, elle ne pense qu'à s'élever vers Dieu, et c'est le corps qui l'entraîne vers le mal. En réalité, la conception des théologiens médiévaux n'est pas du tout celle-là. Cette conception-là apparaît. Parfois, elle est même utilisée précisément dans la prédication. Puis quand les prédicateurs cherchent à convaincre les fidèles d'abandonner un certain nombre de pratiques, effectivement, ils vont éventuellement avoir recours à ce type de rhétorique.
Donc, c'est un effet de contexte.
Mais voilà, il y a un effet de contexte. Mais du point de vue strictement théologique, les auteurs médiévaux vont expliquer de plus en plus qu'en réalité, donc d'où vient le péché? Mais ce n'est pas le corps qui pêche, c'est l'âme qui pêche. Alors, dans un premier temps, par exemple, chez Grégoire le Grand, il distingue, donc au 5e, 6e siècle, il distingue des péchés spirituels et des péchés charnels. Alors, effectivement, la luxure, l'avarice, la gourmandise sont plutôt du côté des péchés charnels, et les autres, l'orgueil, l'envie, etc., sont plutôt du côté des péchés spirituels. Mais ensuite, par exemple, au 12e, 13e siècle, tous les péchés, nous expliquent les théologiens de ces siècles-là, les théologiens scolastiques, tous les péchés ont en réalité leur source dans l'âme. C'est l'âme qui pêche et le corps n'est que l'instrument, en particulier dans la luxure ou la gourmandise, de ces tendances au péché. C'est l'âme qu'il va falloir sauver. l'incarnation du Christ qui vient apporter la rédemption à l'humanité, c'est pas pour sauver uniquement les corps, c'est aussi pour sauver les âmes qui sont le lieu véritable du péché en l'homme.
Alors, cette simple remarque suffit à mettre en évidence un autre fait crucial que vous traitez dans l'ouvrage, c'est que c'est une dualité hiérarchisée.
Absolument.
Vous pouvez nous expliquer de quelle façon ?
Alors, entre l'âme et le corps,
oui.
C'est une dualité hiérarchique. Évidemment, l'âme est supérieure au corps. Les choses matérielles, les choses corporelles sont, dans cette logique non dualiste, sont bonnes. Il faut les accepter, il faut les assumer. Mais il y a malgré tout mieux, et effectivement, ce sont les choses spirituelles. Et il y a encore mieux, en réalité, on a un système là, pour le coup, d'une espèce de ternarité entre, c'est ce qu'on voit aussi dans le dessin, dans l'image dont on parlait tout à l'heure, entre les choses corporelles, matérielles, qui sont bonnes, les choses spirituelles, c'est-à-dire les êtres créés spirituels, comme les âmes, sont évidemment meilleurs, et puis il y a le plus haut, qui est évidemment divin, le créateur, qui, lui aussi, il faut le rappeler, est un être spirituel. Donc le grand modèle, évidemment, la perfection, elle est en Dieu et elle est dans un être spirituel. Et donc l'âme, elle partage cette qualité-là avec Dieu. C'est ce qui fait qu'elle est supérieure au corps. Elle partage cette dimension spirituelle, mais en même temps, elle est de l'ordre de la création. Donc elle est aussi inférieure à son créateur, bien entendu.
On évoquait tout à l'heure différents milieux se positionnant de façon distincte sur ces questions, notamment le mouvement monastique qui cherche à fuir le monde et qui adopte donc une position plus détachée du matériel, du corporel, et voyant davantage la source du péché ou du mal. Vous évoquez dans le livre le lien qu'il peut y avoir entre cette conception de l'homme, cette conception aussi de la société, enfin, on passe en quelque sorte de l'anthropologie à l'ontologie et de la façon dont les institutions elles-mêmes se positionnent dans la société. Avec presque même le sous-entendu ou la proposition que cette réconciliation progressive de l'Église avec les choses matérielles serait due au fait mais qu'elle est devenue une institution par nature matérielle elle aussi, avec des terres, des possessions, des richesses, et que bon, il faut aussi articuler le discours avec l'état de fait, avec la réalité.
Absolument.
Qu'est-ce qui est ça ?
La réalité institutionnelle, la situation sociale et institutionnelle. Alors effectivement, cette question de l'âme et du corps, donc de la personne, c'est aussi une manière de parler d'autre chose, c'est aussi une manière de parler de l'ordre social, ou de l'ordre du monde de manière plus générale. Pourquoi ? Bah parce que, par exemple, cette dualité de l'âme et du corps dans la personne, elle correspond assez directement à la dualité qui est une des dualités fondatrices de l'ordre social dans la chrétienté médiévale, c'est-à-dire la dualité entre les clercs et les laïcs. Car les clercs sont qualifiés d'hommes spirituels, tandis que les laïcs, eux, restent dans l'ordre des choses matérielles et corporelles. Donc quand on parle de la dualité, mais aussi de la hiérarchie entre l'âme et le corps, c'est évidemment une manière de fonder la hiérarchie qui existe entre les clercs et les laïcs, c'est-à-dire la supériorité du clergé par rapport aux autres composantes de la société chrétienne médiévale. Quand on décrit la conception de l'être humain, en fait, on fonde sur une réalité naturelle, en quelque sorte, l'ordre social. Donc. Mais les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, en réalité, parce que il n'y a pas seulement cette dimension hiérarchique, il y a aussi ce qui découle de tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire c'est cette unité de la personne, hein, le corps et l'âme dans l'être humain forment une unité, et une unité positive. Et en réalité, ce discours-là est aussi une manière de parler de l'ordre social. Pourquoi ? Parce que précisément, l'Église, l'hypothèse que j'essaye de défendre dans le livre, est une institution éminemment paradoxale. C'est en effet une institution spirituelle. Son but, il est spirituel. C'est le salut, c'est le fait de mener les hommes, les fidèles, les chrétiens, et la société dans son ensemble, jusqu'au salut et jusqu'à Dieu. Donc sa fin, elle est spirituelle. Mais en tant qu'institution, elle est en effet extrêmement incarnée. Elle est incarnée dans ses possessions matérielles, dans les édifices, dans les monastères précisément. Alors les moines ont beau avoir un discours plus dualiste, ils vivent quand même dans une réalité extrêmement incarnée, dans les bâtiments monastiques qui sont bien souvent parmi les plus somptueux des régions où ils sont installés, et puis dans les terres que l'Église accumule progressivement au fil des donations qui lui sont faites, notamment de la part de l'aristocratie au cours des siècles centraux du Moyen-Âge. Donc l'Église est évidemment la puissance dominante dans la société chrétienne médiévale. Elle est d'une richesse éblouissante qui éclate aux yeux de tous. Il suffit d'entrer dans une église à l'époque pour entrer dans un lieu chargé de splendeur, d'objets liturgiques en or et fait d'or et d'argent, de pierres précieuses, etc. Donc cette richesse, elle est dans l'ordre du matériel. Donc comment penser une institution qui est aussi investie dans la réalité matérielle, dans la richesse matérielle même, et qui pourtant est uniquement spirituel par sa vocation, par sa mission, par les fins qui lui sont assignées. C'est un véritable paradoxe, et c'est pas du tout une question théorique, parce que à la fois le statut de l'Église et toutes les contestations dont elle fait l'objet se jouent sur ce terrain-là, sur ce terrain de l'articulation du spirituel et du corporel. À la fois les hérésés, en interne aussi, il y a effectivement des tendances qui s'affrontent dans l'Église, parce que l'Église n'est pas du tout un bloc homogène. Elle est traversée de tensions, de conflits internes entre les ordres, entre les séculiers, les réguliers, etc. Donc beaucoup des courants, soit hérétiques, soit marginaux au sein même de l'institution, reprochent à cette institution d'être précisément trop incarnée, de souiller en quelque sorte. Cette mission spirituelle par cette incarnation, par ce contact avec les réalités du monde. Et ces critiques, elles vont ressurgir, elles s'expriment dans les hérésies au milieu du Moyen-Âge, avec ce qu'on appelle les cathares au XIIe, XIIIe siècle, et elles vont ressurgir à la fin du Moyen-Âge, à partir du XIVe siècle, avec Wycliffe, par exemple. Wycliffe fait une critique absolument radicale de l'Église institutionnelle, et il lui oppose une Église des prédestinés qui, pour lui, doit être une Église entièrement spirituelle. Et précisément, il va dénier toute légitimité aux possessions matérielles de l'Église. Tout ce dont on parle, tout ce modèle anthropologique, c'est une justification de l'incarnation matérielle de l'institution ecclésiale.
Et
chez les contestataires, on va critiquer cette interrelation du corporel et du spirituel pour délégitimer ce statut institutionnel de l'Église au profit d'une Église qui devrait être purement spirituelle. Et donc ce courant-là, il va de Wycliffe jusqu'à Jean Hus, et après Luther et la Réforme.
Ce qui est frappant en parcourant ces siècles avec vous, c'est qu'on voit la cohérence de chacun des discours. Cohérence parfaite du discours de l'Église avec sa situation, mais également des contestataires, puisque Wycliffe, si je ne me trompe pas, du coup, va jusqu'à remettre même en cause le dogme de l'incarnation.
Dans le dogme de la présence réelle, dans l'Eucharistie surtout, voilà. qui est quand même la manifestation au niveau des sacrements qui est fondatrice de ce qu'est devenu l'Église chrétienne occidentale dans cette période.
Mais aussi de cette interpénétration entre spirituel et matériel.
Ben voilà, exactement. Et donc cette interpénétration, elle se joue sur les sacrements, elle se joue sur les bâtiments ecclésiaux eux-mêmes, et en particulier sur les images. Toutes ces réalités-là sont fondées sur la possibilité d'articuler positivement le corporel et le spirituel. Si on retire ça, tout l'édifice ecclésial s'effondre. Et c'est ce qui va se passer, effectivement, à la fin du Moyen-Âge, avec les contestations qui vont aboutir à la Réforme.
Mais pas seulement à la Réforme. Et on en revient au second. On a dit que votre ouvrage était un ouvrage comparatiste. Dans un second temps, dans un second mouvement, Vous comparez cette société-là, la façon dont elle est organisée, dont l'homme se pense lui-même par rapport à Dieu, par rapport à ses semblables aussi, et ce qui va se produire par la suite avec l'irruption de la modernité. Car nous l'avons dit, il ne s'agit pas seulement de s'interroger sans fin sur les rapports de l'âme et du corps, mais de voir les effets que ça peut avoir dans une conception globale de la société. Alors jusqu'ici, on avait un peu tendance à penser que Descartes, il sortait pas de nulle part, ce qui est certainement évidemment pas le cas, il y a que lui qui pourrait peut-être le penser d'ailleurs. Mais toutefois, vous envisagez sa pensée, ses discours et ceux de Locke également, comme une rupture radicale, et non pas comme une inflexion ou une évolution naturelle de ce qui était pensé précédemment. Vous nous expliquez tout cela.
Oui, alors effectivement, je pense qu'il est utile de situer une rupture avec toutes les conceptions dont on vient de parler, qui sont celles d'un long Moyen-Âge, qui, à mon sens, pour les questions dont on parle maintenant, se prolonge jusqu'à Descartes, jusqu'au début du XVIIe siècle. Donc la véritable rupture, elle n'est pas à la fin du XVe, au début du XVIe siècle, avec ce qu'on appelle la Renaissance, comme on le veut habituellement, moment où on passerait donc du Moyen-Âge au temps qu'on appelle moderne. Je pense qu'il faut prendre, comme l'avait suggéré Jacques Le Goff, un long Moyen-Âge qui se prolonge parfois jusqu'au XVIIIe siècle, mais pour ce qui concerne les questions plutôt anthropologiques qui sont celles de ce livre, jusqu'au début du XVIIe siècle. Et en effet, l'examen de cette question m'a amené à penser, bon, à la suite de bien d'autres études, que la rupture, elle intervenait avec Descartes. Alors avec Descartes, on rentre effectivement dans des conceptions qui sont franchement dualistes. Donc cette idée qu'il y aurait un dualisme occidental, je ne le nie pas. Simplement, on l'attribue habituellement aux conceptions chrétiennes, et dans ce que j'essaye de montrer, ou de rappeler dans ce livre, c'est que ce dualisme occidental, il prend effectivement sa consistance avec Descartes, mais il ne vient pas de la tradition chrétienne médiévale.
Alors, est-ce que vous pouvez rappeler comment s'exprime ce retour de flamme dualiste par Descartes et aussi par Locke ?
Alors, chez Descartes, donc c'est une séparation, pour le coup, aussi radicale que possible, entre ce que jusque-là on appelait l'âme et le corps. Lui, il parle de la chose pensante et de la chose étendue. La chose pensante, c'est l'âme ou l'esprit, les termes peuvent être éventuellement synonymes, et la chose étendue, c'est le corps. Alors, le dualisme, évidemment, ne peut pas aller jusqu'au point de nier que dans l'homme, il y a une union entre ces deux entités. L'être humain, même pour Descartes, est quand même fait d'une chose pensante et d'une chose étendue. Mais, en effet, on peut parler de dualisme. Donc il y a toujours dualité chez Descartes, hein, dans ce sens-là, on n'a pas changé d'univers, on est dans la continuité, en quelque sorte, des conceptions médiévales.
Sauf qu'il ne les articule pas de la même façon.
Voilà, il a beaucoup de mal à penser cette unité, c'est presque impossible pour lui de penser cette unité de ces deux entités en l'homme. D'ailleurs, la notion même d'homme, chez lui, devient très problématique. Chez lui, il y a un jeu. Le jeu, bah, c'est le cogito, je pense donc je suis, on a appris ça à l'école. Donc le jeu, il est tout entier dans la chose pensante. Ce qui fait que je suis un jeu, c'est cette chose pensante. Mon corps ne fait pas partie de cette chose pensante. Donc Descartes, par exemple, va dire ce jeu, c'est mon âme, c'est cette chose qui pense en moi. Alors oui, j'ai un corps, effectivement, mais ça ne fait pas partie essentiellement de ce jeu qui est pour moi cette chose pensante. Quand il dit ça, il renverse absolument et de manière directe ce que disait Thomas d'Aquin, pour qui disait, lui, au contraire, mon âme, ce n'est pas moi.
Oui, vous alors, donnez cette citation. L'âme, voilà, disait Thomas d'Aquin, l'âme n'est pas l'homme entier et mon âme n'est pas moi.
Mon âme n'est pas moi parce que ce moi, en tant qu'homme, c'est l'union de l'âme et du corps. Je ne peux pas me penser en dehors de cette union de l'âme et du corps, d'autant plus que chez lui, elle est pensée sur le mode de l'illémorphisme, de l'unité indissociable de la forme et de la matière. Donc la phrase de Descartes, c'est l'inversion de cette logique antidualiste dont on a une expression particulièrement forte chez Thomas d'Aquin. Donc il va séparer au maximum ces deux entités. La chose pensante, elle ne peut pas être dans l'étendue. Et la chose étendue, elle ne peut pas être pensante. Donc il y a une extériorité presque totale entre ces deux composantes de l'être humain. On les a entièrement dissociées. au point que Descartes va ajouter quelque chose qui, à mon avis, est une exception anthropologique absolue. Il va mettre fin à cette idée que c'est l'âme qui est le principe animateur du corps. Ça, c'est une idée qui était présente dans le christianisme, comme dans toutes les autres conceptions que justement mon chapitre comparatiste repère, à la suite d'autres auteurs évidemment, dans les conceptions de l'être humain, dans à peu près toutes les sociétés connues dans l'histoire et dans le présent de l'humanité. Qu'est-ce qui donne sa vie au corps, dans ses conceptions ? Ben, c'est une entité qu'on va appeler l'âme, ou une entité animique, on va dire, qui vient de l'extérieur et qui va animer le corps. Et qu'est-ce que c'est que la mort ? Ben, c'est le moment où cette entité animique va quitter le corps, et donc le corps va rester inerte, et c'est la mort. Descartes abandonne cette idée. Pour lui, l'âme, c'est la chose pensante, c'est cette chose qui ne se préoccupe que de cela, de penser. Le corps lui est totalement étranger. Pour lui, ce serait impensable de considérer que c'est cette entité-là, cette chose pensante, qui aussi se préoccuperait d'animer le corps. Pour lui, la vie corporelle n'est que la mécanique des organes du corps qui fonctionnent par leur propre logique. Et la mort, ça n'est pas la séparation de cette entité animique, c'est lorsque le fonctionnement des organes corporels, eh bien, c'est grippé et ne peut plus fonctionner par lui-même.
Et le corps n'est que pure mécanique contingente. Voilà.
Donc le corps, c'est un automate, c'est la conception mécaniste du corps que Descartes applique aussi bien aux animaux qu'aux hommes.
Et comme il n'y a plus d'analogie simultanément entre le corps, la société entière et la nature entière devient une mécanique également.
Exactement. La nature, parce que la nature, elle est une chose étendue pour lui. Alors, autre rupture absolue, radicale que produit Descartes, c'est le passage à la conception de la nature au sens véritablement moderne du terme. Bien sûr, il y avait une idée de la nature depuis l'Antiquité et tout au long du Moyen-Âge. Mais Descartes dit ceci, dans les années 1630, la nature, ce n'est absolument pas une quelconque déesse ou une quelconque entité spirituelle. Pour moi, la nature, c'est la matière et rien d'autre. Et qu'est-ce que c'est que la matière ? La matière, ce sont les choses étendues. C'est-à-dire les choses qui ont une largeur, une longueur, une profondeur.
Mais est-ce que c'est pas la naissance d'ailleurs d'une conception simplement le début du règne de la quantité en quelque sorte, hein, c'est-à-dire qu'on a la qualité serait circonscrite dans l'âme et puis tout le reste n'est que de l'ordre de la quantité, du chiffre, du mesurable.
Alors là, mais parce que quand il fait ça, c'est une opération évidemment fondamentale qui pour lui est destinée à fonder une nouvelle science, hein, et qui effectivement va participer de ce qu'on appelle la révolution scientifique ou la fondation des sciences modernes. On réduit la nature à des quantités. En l'occurrence, les quantités en termes d'étendue, longueur, et ce sont des longueur, profondeur, largeur, ce sont des quantités mesurables et analysables d'un point de vue mathématique et géométrique. Donc on peut construire une science mathématico-géométrique de la nature, parce que toutes les autres qualités en ont été retirées par ce type d'affirmation que produit Descartes à ce moment-là.
À tel point qu'on découvre au détour de ce chapitre que ce moment fondateur de la modernité qu'on imagine comme une sortie de l'obscurantisme est marqué par des régressions complètement incroyables, notamment à l'égard du rapport aux animaux. C'est-à-dire qu'on découvre que dans la pensée médiévale, on a une vision beaucoup plus juste de l'animal, de ses souffrances, que celle, évidemment, de l'animal-machine de Descartes.
Oui, alors plus, je ne sais pas, en tout cas peut-être plus proche de celle
de
qui
votre sensibilité actuelle, vous allez dire.
Tend à devenir les nôtres aujourd'hui, ou qui pourrait peut-être devenir les nôtres aujourd'hui. Alors, l'animal-machine, effectivement, n'a aucune perception, il n'a aucune sensation. Donc l'animal-machine, qui est un automate pour Descartes, n'a pas de sensation. Et donc on a des récits de cette période, de ceux qui adhèrent à cette thèse mécaniste, qui explique que quand un animal, si on comment dire, voilà, si on se met à disséquer un animal ou si on le blesse, etc., il va émettre des cris, etc., il va bouger, etc. Mais on dit, bah, c'est des ressorts qui sont à l'intérieur, qui font du bruit, etc., mais en fait, il ne sent rien. Donc, il y a une négation absolue de la sensation animale. Alors, effectivement, si on appliquait ça au débat actuel sur les souffrances animales, notamment dans les abattoirs...
Ou aux dernières découvertes scientifiques, du reste.
Voilà, ouais. Donc là il y aurait de quoi réfléchir, évidemment, à cette question qui est aussi débattue aujourd'hui. Et les conceptions médiévales étaient beaucoup plus favorables à l'homme. Alors qu'évidemment, il y avait évidemment un écart très marqué entre l'homme et l'animal, mais il y avait un point commun entre l'homme et l'animal dans les conceptions médiévales. La différence était que l'homme était le seul être créé à disposer d'une âme rationnelle qui le rapprochait de Dieu. Mais le point commun, c'est que l'homme, comme l'animal, disposait d'une âme sensitive, qui est précisément ce par quoi on éprouve des sensations, de la douleur, du plaisir, etc. Et cet élément-là était réputé commun aux hommes et aux animaux. C'est donc un point de rapprochement qui est précisément ce que Descartes élimine. Hein, puisque je disais, il élimine le principe animateur du corps et il élimine aussi cette idée d'une âme sensitive. Tant pour les hommes que pour les animaux. Et donc, il fait disparaître ce point commun. Dans les conceptions médiévales, on accordait aussi très souvent, alors après ça dépend des auteurs, mais un certain nombre de facultés aux animaux, par exemple de la mémoire. Hein, certains animaux étaient réputés dotés de mémoire, ce qui semble confirmé aujourd'hui. Et évidemment, toutes ces idées-là sont balayées par les thèses mécanistes de Descartes et des auteurs qui suivent cette idée à partir du XVIIe siècle. Donc tout ça fait partie d'une coupure qui va s'accentuer très fortement entre ce qu'on peut appeler la nature d'un côté et la culture de l'autre, et dont Descartes est un des acteurs majeurs.
Parce que simultanément, il n'y a pas aussi une autre émancipation un peu démiurgique, celle de l'individu lui-même par rapport même à ses semblables.
Oui, absolument. Alors, c'est ça. Alors là, c'est un vaste débat hein, sur la question de l'individu. Quand faut-il situer la naissance de l'individu ?
Alors, mais précisément, une distinction qui est très intéressante, je trouve, avec les différents types de... Vous proposez une nouvelle graduation.
Oui, alors je m'appuie sur les travaux de Louis Dumont, qui me semble, même s'ils ont été beaucoup critiqués, on a pensé qu'ils étaient peut-être un peu trop radicaux dans la manière de séparer les conceptions holistiques des sociétés traditionnelles et puis l'individualisme moderne. Mais je pense que c'est une base vraiment très précieuse qui clarifie même simplement l'emploi des termes autour d'individu, individualisme.
Société holiste, qu'est-ce que c'est ?
Déjà, l'individu, Louis Dumont distingue deux sens. Hein. Il y a le sens trivial, l'individu, c'est-à-dire empiriquement une personne par opposition à une autre. Et la conscience que chacun peut avoir du fait qu'existe telle personne, alors tel individu dans ce sens-là, par opposition à tel autre. Cette idée-là, c'est universel. Hein, voilà. Le problème est que si on ne fait pas cette distinction, si on ne prend pas conscience de ce sens-là, on va attribuer des conceptions qui relèvent de cette idée-là à quelque chose qui est tout à fait différent, qui est le deuxième sens que distingue Louis Dumont, qui est l'individu au sens de l'individualisme moderne, qui en réalité s'affirme précisément à partir du XVIIe siècle, avec quelques antécédents que Louis Dumont va chercher chez Occam au début du XIVe siècle, avec la réforme également, mais le point de rupture pour lui, c'est vraiment le XVIIe siècle, et l'individu au sens de l'individualisme moderne, c'est l'idée que l'individu préexiste à la société et qu'il lui est supérieur en valeur. C'est-à-dire que...
Il est autonome.
Il est autonome, et c'est précisément ce que Descartes met en place. Descartes apporte un élément très important au fait que l'individu est quelque chose qui est auto-fondé, qui se fonde sur lui-même. Chez Descartes, il se fonde sur sa conscience. Qu'est-ce qui donne à l'individu la certitude qu'il existe ? C'est sa propre conscience. Donc, il tire cette certitude de lui-même. Donc, c'est un élément très important pour poser cette idée d'un individu qui ne dépend en effet que de lui-même.
Il ne se définit plus ni par rapport à une valeur supérieure, mettons Dieu par exemple, ni même par rapport aux autres membres d'une communauté, pour peu qu'on puisse encore parler de communauté quand des individus ont une telle pensée.
Voilà, exactement. Donc on rompt avec l'idée d'une inscription communautaire de l'individu. Et en effet, l'individu est la chose première. Et puis bon, après, il y a de la société qui va se créer, qui va, parce que les individus décident, ça c'est la théorie du contrat, ils décident qu'ils ont intérêt à se lier à d'autres et à entrer dans le lien social, mais c'est à partir des individus qui existent en tant que tels, comme atomes séparés les uns les autres, qui vont ensuite donc faire ce choix de rentrer en relation avec d'autres. Donc d'abord l'individu et ensuite la société.
Ou éventuellement refuser ce choix.
Éventuellement aussi. Donc on va pouvoir penser l'être humain en lui-même, par lui-même, indépendamment de tout lien avec d'autres ou avec son environnement naturel, parce que dans beaucoup d'autres sociétés aussi, le lien avec l'environnement, on va dire nous, naturel, est quelque chose qui est constitutif pour l'être humain.
Ce qui signifie que pour cet individu-là, le rapport aux autres ou au reste de la création du monde ne peut être que utilitaire. Le suprême bien, c'est lui-même, il peut éventuellement y renoncer.
Voilà, où il va se lier et entrer en échange avec d'autres, mais fondamentalement par intérêt, puisque les représentations dominantes qui vont s'imposer, alors pas tout à fait à partir de Descartes, mais plutôt avec la pensée économique des auteurs de la fin du XVIIIe, les physiocrates et Adam Smith ensuite, donc c'est l'utilité, c'est l'intérêt matériel individuel qui est le moteur essentiel à la fois de la vie individuelle et aussi de l'association, du lien social ou des échanges à travers le marché que les individus vont décider de créer.
Et sans réelle limite, le terme même d'étendue, je trouve assez frappant, le terme d'étendue de Descartes, c'est un petit peu comme si d'emblée on posait que une fois qu'on a dépassé les bornes, il n'y a plus de limite, non ?
on peut voir les choses comme ça, en effet. Mais derrière la notion d'étendue, il va y avoir la notion d'espace, un espace homogène, un espace unifié qui va prendre corps.
Oui, que vous opposez à la notion de lieu, qui elle aurait été centrale au temps médiéval.
On peut penser que le Moyen-Âge n'a pas eu cette idée d'un espace homogène, unifié, qui va s'affirmer avec Descartes et avec la pensée scientifique, mais au contraire de lieu. C'est-à-dire un lieu, c'est quelque chose qui est pensé à partir de ce qui est dans ce lieu. On n'a pas l'espace en soi, et puis après, des choses dans cet espace.
On n'a pas le monde plat, quoi.
Voilà, on a des choses qui existent, et ces choses, elles existent forcément dans un lieu qui va éventuellement être situé par rapport à d'autres lieux. Mais vous voyez, on pense cette dimension de l'étendue à partir des objets qui sont à l'intérieur, et non pas de manière a priori, comme ce sera le cas dans la pensée scientifique à partir du XVIIe siècle.
Et dans la pensée économique, vous l'avez dit.
Également. Les deux sont peut-être liés aussi.
C'est ce qu'on est conduit à penser en lisant votre ouvrage, en tous les cas. Pour conclure, car nous arrivons à la 45e minute fatidique, n'y a-t-il pas aussi, dans cette pensée d'un être premier qui se choisit son propre destin, la forme même de ce qu'il est, qui peut se moduler à l'infini, puisqu'il s'est libéré de toute pesanteur communautaire, historique, d'héritage, comme la préfiguration de non pas ce à quoi on assiste aujourd'hui, mais ce à quoi certains rêvent aujourd'hui, c'est-à-dire un homme post-humain, ce qui viendrait, le terme même viendrait d'ailleurs valider que le véritable humain est incarné d'ailleurs, hein, mais ces rêveries d'un être devenu dématérialisé, tel qu'on peut le rêver dans certains laboratoires de la Silicon Valley. On passe de l'histoire à un peu la science-fiction, mais une science-fiction
oui,
en élaboration
alors,
sous nos yeux. Hein.
À la fin du livre, je me pose ces questions, les questions qui me semblent être actuelles. Pas pour aller exactement dans la voie du post-humanisme que vous évoquez, pour essayer peut-être de chercher des solutions un peu plus raisonnables.
Ah non, mais je ne vois pas le post-humanisme vivable. Comme une,
j'ai bien entendu. Mais bon, juste pour situer un petit peu la perspective que j'essaie de développer à la fin du livre. Alors effectivement, le post-humanisme, on peut le voir plutôt dans le prolongement et comme une espèce de radicalisation du projet scientifique qui vise précisément, enfin, de la science cartésienne, qui est un projet de maîtrise et de domination de la nature au bénéfice d'un désir illimité de l'homme, de dépasser toutes les limites, de s'affranchir de toutes les contraintes, de toutes les attaches, de toutes les relations qui cependant le définissent, au profit d'un rêve fou d'éternité, d'absolu, et effectivement de victoire sur la mort, parce qu'il y a au point d'aboutissement du post-humanisme, il y a cette idée qu'il est difficile de considérer autrement que comme une folie de victoire sur la mort, pas par les voies traditionnelles de la religion.
C'est pas la prolongation de la vie. Hein,
mais une vie qui se serait absolument affranchie de ces déterminations naturelles qui, bah, qu'on le veuille ou non, sont constitutives de notre existence comme êtres humains.
À la fin de la lecture de l'ouvrage, on en vient aussi à considérer, vous allez vous dire si c'est une lecture fausse de ma part ou pas, que ce moment qui va, le pauvre Descartes, décidément, on l'accable, hein, vous le disiez en préparation de cette émission, c'est la faute à Descartes. Donc le pauvre en arrière contre Descartes, mais bon, effectivement, c'est un jalon dans cette histoire de Descartes jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que finalement, parce qu'on n'a pas évoqué la comparaison avec les autres civilisations, est-ce que ça ne démontre pas, c'est une des autres questions du livre, la singularité radicale de ce moment, à la fois d'un point de vue historique et d'un point de vue géographique, spatial. Est-ce que c'est ce cœur idéologique de ce qu'on pourrait appeler l'Occident, on a un peu tendance à considérer que c'est un universel. À la lecture du livre, on a toujours l'impression que c'est quelque chose de particulièrement singulier, un peu curieux.
Presque une anomalie voilà. Historique. Hein, on pourrait dire que effectivement, tout ce qui va venir constituer la modernité va rompre avec des manières de faire, des manières de vivre, qui sous des formes extrêmement diverses, évidemment, ont constitué la réalité, l'expérience de l'humanité à travers les cinq continents. Et en effet, ce moment de la modernité, c'est la constitution d'une exception, et presque d'une anomalie historique qui est finalement extrêmement récente. Hein, tout ça à peu près 3 siècles, ou 4. Donc c'est presque... c'est infime à l'échelle de l'histoire de l'humanité, et plus encore de la planète, bien sûr. Et c'est une rupture, donc par rapport, et ça c'est effectivement important, c'est ce que vous suggériez, par rapport à l'ensemble des autres cultures, mais aussi par rapport à la propre tradition occidentale. Et donc, de ce point de vue-là, peut-être que aller mieux observer cette dimension médiévale de notre propre tradition occidentale, c'est une manière de chercher, c'est un point d'appui pour mieux penser un rapprochement possible entre notre propre tradition et celle d'autres civilisations, puisque nous avons aussi cette part-là dans notre propre culture.
Oui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le pseudo-universalisme, si je suis votre pensée, post-17e, n'est pas le meilleur moyen d'aller vers les autres. Il vaudrait mieux se retourner vers les pensées précédentes qui
en quelque sorte,
relations.
Non pas pour aller y chercher des solutions ou
des solutions toutes faites,
solution,
ça va être difficile,
mais pour
se souvenir,
pour s'appuyer sur cette tradition qui est devenue une tradition dominée au sein de notre propre histoire, mais qui nous permet peut-être, en effet, de mieux comprendre et de mieux aller vers, à la rencontre, d'autres cultures et d'autres civilisations.
Écoutez, j'allais dire merci docteur, finalement. après le diagnostic, il y a des pistes, au moins des pistes de remède pour sortir des vertiges que nous donne l'irruption de sept individus, mais 16 individus que nous sommes tous aussi, car nous avons tous cette tentation de devenir omnipotents, omniscients et libérés des pesanteurs.
Défaire les effets de plusieurs siècles d'imprégnation de l'individualisme moderne effectivement, ça demande énormément d'efforts. C'est pas quelque chose qu'on peut faire, malgré toute la bonne volonté du monde, en un clin d'œil et ni en quelques jours. Donc ça demande des efforts, de la réflexion et peut-être une meilleure connaissance donc, de notre tradition occidentale dans ses différentes dimensions.
Eh bien, le premier effort à faire, chers auditeurs, c'est un effort agréable, c'est se plonger dans le livre de Jérôme Bachet, Corps et âme, une histoire de la personne au Moyen-Âge. C'est publié chez Flammarion dans la collection Au fil de l'histoire. Bien entendu, toutes les références de cet ouvrage sont présentes sur notre site internet. Merci encore Jérôme Bachet.
Merci à vous.
Thank you.